Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Au hasard des lectures, vous savez, vous allez parfois à la rencontre de personnages que vous connaissez ou vous avez entendus et vous allez mieux les connaître, approfondir leur histoire. Et puis aussi, grâce au fil des lectures, des pages, des mots, vous allez à la rencontre de personnages que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez jamais entendu parler, et c'est une révélation. C'est une révélation pour un homme ou pour une femme, de par sa condition, de par ce qu'il a réalisé, et ça vous touche, et vous avez envie d'en savoir plus. Alors grâce à des auteurs, à des biographes, à des historiens, eh bien ça vous permet d'aller plus loin vers ces personnages, et vous vous dites, mon Dieu, je serais passé à côté de quelque chose d'important si je n'avais pas eu cette rencontre. Alors pour nous parler de ce personnage aujourd'hui, eh bien un biographe, un romancier, un historien, nul doute qu'il fallait sa plume légère, agréable et surtout subtile pour nous parler de ce grand personnage. Bonjour Yann Kerlo.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour votre ouvrage sur Léon Battista Alberti aux éditions Albin Michel. Alors, vous êtes ancien avocat et puis ensuite reconverti dans l'industrie et puis dans l'industrie du luxe et puis vous êtes devenu romancier, biographe et historien. Voilà, j'ai fait le tour, je n'ai rien oublié.
Non, il n'y a rien d'oublié, c'est
Vous aviez fait, entre autres, je crois, une biographie sur, ça y est, j'ai oublié son nom, sur Monsieur
Cromwell.
Cromwell
en premier.
Voilà,
ensuite,
et Monsieur.
Des Agacans.
Et Monsieur Berger.
Et d'autres, dont Pierre Berger.
Pierre Berger, voilà. Voilà, parfait. Alors là, nous allons parler, on en parlait hors antenne, de ce personnage vers qui je suis allée grâce à vous, à la rencontre que je ne connaissais pas, et vous m'avez confié que vous non plus, et que ça avait été aussi une belle rencontre. On peut dire qu'il est né en 1404 à Gênes et décédé à Rome en 1472, et que c'était un homme complet, mathématicien, poète, l'architecture, la lecture, l'histoire, bref, un homme, je dirais, un homme rare. C'est ce qui vous a plu aussi, subjugué?
Oui, parce qu'en même temps, si vous voulez, il y a le côté très érudit de quelqu'un qui avait évidemment déjà lu des textes de l'Antiquité gréco-romaine.
Oui.
Je pense à Platon, je pense à Homère, oui. Je pense à Cicéron, dont il était fou,
oui.
Et bien d'autres, Arios, Aristote, pardon, Théophraste,
oui.
Qui avait, lui, écrit 300 livres à l'époque. Dans le premier siècle avant Jésus-Christ. Et là aussi, si vous voulez, il avait, outre cet intérêt énorme pour le passé, mais aussi il était dans le temps présent et dans le temps futur,
oui.
D'une certaine façon,
mm-hmm.
Avec des dons particuliers. D'abord, on pourrait dire des dons physiques.
Oui.
C'était quelqu'un de très costaud, de très grand pour l'époque, un peu plus d'un mètre 80 au 15e siècle, c'était rarissime.
Tout à fait.
Et en même temps, un homme qui avait des talents, il était un cavalier exceptionnel, il a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle « De l'équitation ».
Oui.
Moi, en tant que cavalier, je me suis aussi beaucoup, j'ai beaucoup aimé les chevaux, et j'étais aussi un cavalier à une certaine époque, voilà.
Mm-hmm.
Donc, en dehors de ça, si vous voulez, il a cette formidable particularité d'être à peu près dans tous les domaines qu'on peut imaginer.
Et oui.
L'algèbre, les mathématiques, la philosophie,
oui.
L'architecture, il était fou.
La poésie, l'écriture.
Absolument.
Mm.
Et si vous voulez, cette succession, quand vous dites c'est un homme rare, vous avez tout à fait raison, parce que peu de gens accumulent autant de qualités
de talent
et d'intérêts divers.
Oui, c'est vrai. Surtout à une époque, la Renaissance est une époque très particulière pour l'Italie. On peut parler de période pour le Quattrocento aussi, on peut dire ça, hein, tout
bien
à fait.
Sûr.
Et puis surtout, alors moi ce qui m'a étonné, c'était aussi sa longévité, parce que 1404-1412, ça fait 68 ans, c'était pas si courant non plus au 15e siècle.
Non, mais alors il faut se dire qu'il avait lui-même une envie de durer. Pourquoi? Tout simplement parce que ces textes, superbes pour certains d'entre eux et intéressants et bons dans tous les autres,
oui.
N'ont jamais été imprimés de son vivant. Et ça,
ouais.
Ça a été quelque chose, une douleur terrible pour lui, parce qu'il guettait chaque année avec l'espoir que ça allait être vraiment le début de la connaissance et du savoir qu'il avait, oui. Qui était enfin transmis non seulement à ceux qui parlaient le latin, mais à ceux qui parlaient le toscan. Mm-hmm. Et là aussi, il faut savoir si vous, que quand on vous parle de ces différents ouvrages, on avait des ouvrages de 700 pages, 900 pages, 100 pages, donc des choses très très différentes et des sujets qui l'étaient tout autant.
Alors dans votre livre, quelques illustrations très 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 intéressantes. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la genèse. Vous m'avez dit hors antenne comment vous étiez allé à la rencontre de ce personnage et tout ce que vous aviez lu sur lui. 40 livres sur 45, donc c'est un truc énorme, c'est un véritable marathon. Mais racontez à nos auditrices auditeurs comment vous êtes allé à la rencontre de Léon Battista Alberti.
Ben écoutez, tout simplement parce que une amie italienne de plusieurs années, ça fait plus de 15 ans que nous connaissons, oui. La princesse de Cruy, qui était née princesse Colalto, donc elle était italienne, oui. Son mari étant belge, mais français aussi, puisqu'il a des liens avec la France, oui. Et donc chez ses amis de longue date, j'ai décidé que j'allais lire Alberti, et ça a été toute une entreprise, parce que mon épouse pensait que petit à petit je demandais de plus en plus de place pour les livres.
Est-ce que c'était difficile de trouver la documentation?
Non, pas du tout. Non. Quand on est à Paris, c'est très simple, parce qu'on vous commande tout ce que vous souhaitez. Oui. Et là, en tout cas, si vous voulez, pour les ouvrages qui sont traduits en français, oui. Ils ne sont pas tous, mais quand ils ne le sont pas, ma femme parlant couramment italien, ce n'était pas un problème.
D'accord. Alors, vous me disiez, c'était une littérature colossale. Moi, j'ai senti dans votre livre une véritable subjugation, une admiration, hein, et puis surtout, c'est un personnage hors norme. Et je me disais, mais nous devons apprendre de cet homme-là, d'aujourd'hui, parce qu'en fait, terriblement moderne, brillant, mais nous devons beaucoup apprendre de cet homme-là.
Alors, en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que les textes de Léon Battista Alberti ont été traduits en France en 1512. Oui. Donc, en 1512, on pouvait penser qu'il allait devenir très célèbre au XVIe siècle.
Tout à fait.
C'était vrai et faux, vrai pour l'Italie. Oui. Mais il n'avait pas eu la chance, lui, de connaître le XVIe siècle, qui est vraiment l'époque la plus importante, oui. Sur le plan tant de la peinture, qu'il adorait, que de la littérature sur tous ses angles, de la philosophie, de l'algèbre, etc. Et là aussi, si vous voulez, on est face, en tout cas c'était mon cas, face à quelqu'un qui est doté d'un savoir illimité, et en même temps qui a cette particularité de s'intéresser à des choses qui n'ont rien à voir, a priori, les unes entre les autres. Et d'une certaine façon, moi j'en avais conclu qu'il a eu beaucoup de chance, étant rédacteur en chef des briefs écrits des papes, il a eu la grande chance de ne pas être publié parce que ces textes étaient par moments extrêmement osés pour la curée romaine, qui est une institution...
Un peu subversif oui. Parfois, oui.
Ben, un peu subversif, vous avez raison, mais en même temps, ce qui a été très important pour lui, c'est que, croyant perdre toute possibilité d'être connu, en tout cas durant tout le XVe siècle, il l'a été bien après, puisque nous, après la France immédiate, il a eu, l'Italie immédiate, pardonnez-moi, mais il a eu aussi la chance que la France lui a donnée au XIXe siècle avec Honoré de Balzac. Honoré de Balzac, c'est vraiment... il a considéré que Léon Battista Alberti devait être célèbre compte tenu de tout ce qu'il avait écrit, de la diversité, et aussi du fait qu'au même moment en France, sous Napoléon III, nous avons eu un changement de la ville de Paris qui était très conséquent, puisqu'on avait décidé de mettre le baron Haussmann chargé de tous les travaux
de Paris
pour des travaux. Et là, grâce à Haussmann, nous avons eu 40 000 immeubles faits donc, à la manière haussmannienne, comme on le dira plus tard, et ensuite 100 000 arbres qui ont été plantés avec beaucoup de remarques des uns et des autres sur notamment L'art d'édifier. L'art d'édifier a été un livre, celui-là, réellement considérable dans les deux sens du mot, par
Alberti.
L'intérêt extraordinaire de ce livre, qui devrait, selon moi, être rendu obligatoire pour ceux qui décident de devenir des architectes. Et si je le dis, c'est tout simplement pour une raison, c'est que en lisant les 700 pages de Léon Battista Alberti sur l'art d'édifier, on a l'impression que on saura tout ce qu'il faut faire, qu'il s'agisse de la campagne, de la ville, d'une de ces villes-états, comme les appelaient les Italiens, des villes comme Mantoue, comme bien sûr Rome, comme Milan, comme les duchés, le duché de Parme, le royaume de Naples, qu'ils étaient alors, eh bien, on va pouvoir avoir des architectures qui combleront toutes les difficultés, les écarteront en expliquant leur pourquoi et leur comment.
Est-ce qu'on peut parler de Léon Alberti en disant que c'était aussi, peut-être pas avant tout, mais aussi un grand humaniste?
Alors, un grand humaniste, aussi, vous savez, je crois que nous avons en France une idée qui est un peu fausse. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de douceur dans l'humanisme, la poésie, les gens très éclairés.
Ça n'est pas seulement ça. Mais oui, ça n'est pas seulement ça. C'est la vision c'est la révision romantique, ça.
Oui, mais la religion romantique, et en même temps, on oublie que la violence et les guerres ont été dominantes entre l'Italie, la France et d'autres États. Et ça a été pratiquement constant, et d'une certaine façon, Léon Battista Alberti, ce n'est pas qu'il en ait profité, puisque les guerres se passeront entre, grosso modo, 1445 et 1515.
1515,
Oui, 1515, c'est Marignan
avec François Ier,
qui va pouvoir ensuite hériter, parce que la France avait des droits avec la famille des Valois, des Orléans, qui étaient reliés, bien sûr, à la haute aristocratie qui demeurait à Venise, à Milan, à Naples, à Rome, etc. Et donc là, il y a eu un lien naturel entre ces guerres et ensuite le triomphe de la France, qui pouvait être longuement détesté par les Italiens et par ces fameuses villes-états où habitaient des gens aussi illustres que les Médicis, les marquis de Gonzague, et puis bien d'autres, évidemment. C'est un petit peu, si vous voulez, comme si Léon Battista Alberti avait gagné sur tous les tableaux sans s'en rendre compte.
Oui. Mais en lisant votre livre, parfois je le reposais et je me disais, mais comment est-ce possible cette multiplicité, cette érudition en un seul être, finalement, en peu de temps, il est décédé, il avait 68 ans, mais il a été un moment un bébé, puis un petit enfant quand même. Donc finalement, j'ai eu l'impression que la période finalement a été assez courte et il a fait tant de choses. C'est ça qui est assez extraordinaire. Moi, ça m'a laissé un peu pantoise, je vous avoue.
Mais vous avez raison de le dire, parce que plus on avance, qu'on comprend qu'il a eu un très gros choc en 1421 à la mort de son père, puisque à ce moment-là, on lui a révélé qu'il était un enfant illégitime.
Un enfant illégitime. Il avait 17 ans, donc c'est sûr que c'est...
Il avait 17 ans, et c'était un choc terrible pour lui, parce qu'il s'est mis soudain à comprendre ce que cela avait pour conséquence. Pour lui, ça veut dire que les Alberti de la famille noble, richissime, etc., qui avait existé au XIIIe siècle, en 1381, donc bien avant son arrivée sur Terre, en 1381, la famille Alberti a été bannie purement et simplement pour une durée qui était normalement illimitée. Il va falloir attendre un peu plus longtemps, en 1430, pour que la famille Alberti retrouve ce que l'on appelle les honneurs.
Les honneurs, ces lettres de noblesse. Ces lettres de noblesse,
Et donc, si vous voulez, ce choc, pour lui, l'a toujours poursuivi. Et il n'a eu de cesse que de trouver des gens avec lesquels il puisse s'entendre, qui comprenaient parler le latin comme nous, nous parlions le français, avec aisance. Bon, et là aussi, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se passionnent par le latin, que l'on nous a appris, pour ma part, dans les études que nous avons faites.
Exactement.
C'était obligatoire, le latin.
Tout à fait. Oui, je suis passée comme vous par là aussi. Oui, tout à fait. Alors, je disais, on disait un humanisme, une multiplicité, un homme kaléidoscope aussi, hein, vous dites dans votre ouvrage. Mais est-ce qu'aujourd'hui, sa mémoire, ses écrits sont intacts? Vous disiez, son écrit sur l'architecture, on devrait en faire école pour ceux qui veulent faire de l'architecture. Mais aujourd'hui, est-ce que d'autres choses peuvent faire foi, peuvent nous éclairer? Ça peut être une référence aujourd'hui, Léon Battista?
Alors, non seulement une référence, mais pour ceux qui auront le goût de lire des livres qui sont beaucoup plus courts au point de vue nombre de pages, mais tout aussi intéressant, je pense, aux entretiens sur la tranquillité de l'âme.
Ah
on
oui.
a vraiment l'impression, quand
ah
on
oui.
ferme le livre, qui doit faire 80 ou 100 pages,
oui.
plutôt 100 pages, on a l'impression que c'est quelque chose qui a été écrit, je ne sais pas, en 2021, sans la moindre difficulté. On est en plein égo. L'ego de Léon Battista Alberti pour qu'il nous explique ce qui l'intéressait, ce dont il doutait, quel était le pouvoir d'un homme, le pouvoir d'une femme, de comment chacun pouvait-il exprimer aux autres, comment il était devenu celui-même ou cette elle-même. Tout cela est tellement intéressant et contemporain que
et contemporain.
On ne pose même pas.
Oui.
Donc on a ça et on a en même temps d'autres éléments. Où, par exemple, on a attribué à Léon Battista Alberti qu'il était celui qui avait créé la perspective.
Oui.
C'est faux. Alors, autant le dire tout de suite,
oui.
il avait déjà eu avant lui quelqu'un, Brunelleschi, qui avait lui-même, qui était lui-même un homme d'un très grand savoir, et les règles de la perspective, c'est Brunelleschi qui les a données, et elles ont été reprises, évidemment, par Léon Battista Alberti, qui, en tant que poète, en tant qu'amateur peintre, etc., avait lui-même des goûts très précis dans cette matière. Il a été plutôt un ingénieur, mais un ingénieur, pas seulement de l'architecture, un ingénieur de lui-même.
Ouais.
Qui est-il? Que veut-il être? Qu'attend-il? Et c'est ce que nous nous demandons nous-mêmes chaque jour.
C'est vrai.
C'est-à-dire, si nous avons des enfants, nous voudrions qu'il leur arrive le meilleur. Si nous sommes mariés, nous voulons que l'être qui partage notre vie soit évidemment pour nous un bonheur quotidien.
De chaque jour, oui, tout à fait.
Ben oui, bien sûr. Et
bien
alors,
sûr.
Là aussi, si vous voulez, c'est très étonnant parce que on a tendance de manière constante à se dire, mais c'était extraordinaire qu'il ait pu penser ça à cette époque.
Oui.
Donc, nous réalisons petit à petit qu'il a traversé non seulement les siècles, mais ce que j'appellerais les mondes virtuels et les mondes spirituels. Et ça, c'est très frappant parce qu'on a une impression comme cela, si vous voulez, qu'il nous emmène dans des pays très différents. Il étudie des religions qui sont aussi très différentes.
Bien sûr,
le bouddhisme qu'il pratiquait.
Oui.
Il s'est intéressé au bouddhisme,
oui.
À des choses, si vous voulez, parce que le bouddhisme était largement antérieur à la foi catholique.
Bon, bien sûr.
Et quand on est justement à la curie romaine, bon, il n'aurait pas fait, ça n'aurait pas été une très bonne idée de sa part d'ouvrir son intérêt majeur pour le bouddhisme au 1er siècle avant Jésus-Christ.
Tout à fait. Oui.
Beaucoup de gens en auraient été complètement stupéfiés.
Ça, c'est clair. Oui, ça, c'est sûr. Oui. Mais j'ai eu le sentiment aussi. D'un visionnaire, finalement. D'un visionnaire avec un réalisme assez, comment dirais-je, assez, un réalisme profond. Mais en même temps, d'un homme qui m'a presque été familier. Quand j'ai refermé votre livre, j'ai eu l'impression d'un homme familier,
Et puis, je me suis dit aussi, j'ai pas eu le sentiment qu'il ait rencontré beaucoup d'obstacles par ses nombreux attachements, de ses nombreuses activités. Il n'y avait pas d'aversion. J'ai l'impression qu'il a traversé les choses, hormis, bon, bien sûr, la disparition de son père à l'âge de 17 ans, mais j'ai le sentiment qu'il a traversé les choses avec intelligence, avec une forme de sérénité, assez tranquillement, finalement.
Vous avez pleinement raison, parce qu'il avait un don particulier, mais qu'il avait beaucoup travaillé. Ce n'était pas simplement tombé du ciel, naturellement.
Ah, bien sûr.
Il était un diplomate extraordinaire.
Oui, oui.
Parce que c'était un homme qui avait une grande ambition, et son ambition, elle était tout à fait normale pour moi, parce que dans la mesure où vous avez comme ça reçu une formidable claque donnée par les faits qui lui ont été annoncés comme ça, mais comme si c'était son propre bannissement qui devenait immédiat.
Oui, tout à fait.
Et bien là, si vous voulez, sa traversée du temps, il la doit aussi à cette diplomatie. Il était un petit peu pour moi comme un poisson, vous savez, qui passe entre deux eaux,
oui.
Et qui tout d'un coup surgit devant vous, et vous dites, oh mais d'où sort-il celui-là? C'est exactement le début que j'ai eu, et ensuite, il nous a apporté la confiance et aussi un atout qui était majeur pour lui et qui est tellement important pour nous tous aujourd'hui sur cette planète. Nous voulons notre liberté.
Eh oui.
Et non pas quand on nous dit nous sommes dans une démocratie. C'est totalement faux, cette histoire de démocratie. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'État aujourd'hui, quand il est en France par exemple, nous envoie des sommations de ceci, vous devez faire cela, attention, il y a ceci qui va se passer, etc. Et c'est systématiquement, pratiquement de façon quotidienne, qu'on nous alerte devant des dangers.
Mmh,
or, le danger, ce serait d'être un imbécile, mais à partir du moment où vous commencez non seulement à vous intéresser à vous-même, mais surtout aux autres, là, vous avez des voies qui vous sont ouvertes, non seulement par les études, mais aussi par les hasards.
Mmh.
Et je voulais en donner un exemple pour tous ceux qui nous écoutent. À la fin de sa vie, Léon Battista Alberti a eu ce trait particulier, tellement pour nous sympathique et inattendu. Il a légué l'ensemble de ses biens et de peu de sa fortune.
Oui.
Il l'a légué aux jeunes savants qui l'entouraient.
Mmh.
Dans ce mot savant, il a compté un peu tout le monde, c'est-à-dire aussi bien les gens qui s'occupaient d'astronomie,
oui,
que de peinture, que de construction.
Toutes les branches. Toutes les branches.
Mais toutes les branches, si vous voulez.
Mmh.
Et ce sont des inattendus qui sont merveilleux dans la vie des gens, parce que tout d'un coup, il s'est occupé d'environ 300 personnes.
Mmh.
C'est énorme.
Mmh. C'est pour ça que je vous disais que ça y est, j'ai perdu le fil de ma pensée. C'est pour ça que je vous disais que c'était qu'on devait en tirer leçon de cet homme-là.
Bien sûr, parce que si vous voulez, il y a une générosité en lui qui n'est pas toujours évidente quand on vit solitaire, parce que
surtout une époque 15e siècle qui n'est pas spécialement facile non plus. Hein,
Non, elle n'est pas facile, mais il a eu la grande finesse de toujours arriver, quand il y avait de nouveaux papes qui arrivaient devant lui, eh bien, quand ça a été Nicolas III, par exemple, la première réflexion qui lui est faite, qui était évidemment à propos des grandes églises, des cathédrales, etc., et pas seulement de celles de Rome, qui étaient toutes, on dit maintenant, classées, eh bien, il leur a dit d'abord, pardonnez-moi de vous dire ceci, en tant que souverain pontife, mais vous allez risquer de plonger dans des travaux qui sont considérables et qui vont entraîner de vos finances une chute profonde, parce que ça va être très compliqué pour vous d'avoir ces éléments et de pouvoir faire autant de travaux. Donc là, au fond, d'une certaine manière, il avait l'air de risquer pour lui-même, puisque lui-même était un des architectes favoris des états pontificaux, mais il était tellement honnête et tellement droit, ça devait être pour lui une chose naturelle.
Oui, tout à fait.
Et en ce sens, il s'est, au lieu d'être considéré comme un de ces ingénieurs ou ces architectes qui veulent toujours être payés plus, eh bien, il a eu comme effet contraire absolu. Là, le souverain pontife ou les souverains pontifes ont eu une confiance totale en lui, ils ont eu raison.
Oui, ils ont eu raison. Au travers de votre étude sur Léon Battista, est-ce que Yann Carlos, ça vous a permis aussi de mieux appréhender l'Italie, de mieux la comprendre ou de mieux appréhender d'autres choses?
Je pense que ça m'a fait me tourner davantage encore vers les autres, parce que là aussi, nous devons toujours nous dire que quand nous avons un problème, tout d'un coup, on sent un peu l'hostilité de quelqu'un ou toute autre raison, ou on regrette de ne pas connaître X ou Y qui sont chantés par d'autres que nous. Oui. Je pense que c'est aussi une façon de nous ouvrir l'esprit d'une manière qui est, et en cela, me ressemble beaucoup, d'être optimiste sur ceux, ces UX, qui nous entourent. Mmh. Et toujours les appréhender sans les rencontrer, sans que ce soit une crainte. Mmh. C'est à nous de nous intéresser aux autres, et ils feront de même. Mmh. Et ça, je crois, si vous voulez, que l'amitié, l'affection que nous portons aux uns aux autres, elle peut toujours être étendue. Et en cela, si vous voulez, moi j'ai commencé à considérer, il y a 2 ans et demi, que Léon Battista Alberti était un ami pour moi et en même temps un guide.
Oui,
il allait me permettre d'étendre la structure de la pensée et ce que nous avons à gagner et comprendre d'autrui.
Oui,
et ça, en même temps, quand il nous donne un accès à ce que j'appelle la liberté d'être soi, eh bien, c'est déjà un gain formidable.
Oui, c'est vrai. Alors, ça n'a pas dû être facile pour vous de sortir de son histoire, mais je suis sûre que vous êtes déjà plein de projets quand même, Yann Kerlo.
Écoutez, je suis déjà content d'avoir terminé ce livre en me disant que tout ce que je devais exprimer me semble l'avoir fait.
C'est passionnant, oui, franchement, c'est passionnant.
Et là aussi, si vous voulez, ce magicien de la Renaissance, il a tellement traversé le temps que nous lui devons maintenant de le saluer et de le faire
vivre.
C'est une façon de renaître pour moi.
Oui.
Et il la mérite tellement qu'il faudra absolument que ce livre vous intéresse. Voilà.
Mais en tout cas, ça a été le cas. Et grâce à ça, je vais me plonger dans quelques écrits, notamment celui dont vous nous avez parlé tout à l'heure, le petit livre qui fait 80 pages sur la perspective de l'âme.
La perspective de l'âme, la tranquillité de l'âme.
La tranquillité de l'âme.
La perspective de l'âme, parce que les deux sont assez
vite. Oui.
C'est tellement bien de le dire. Je vous en félicite et j'espère surtout que vos éditeurs sont d'accord.
Eh bien, je l'espère et je n'en doute pas. Léon Battista Alberti aux éditions Albin Michel avec Yann Kerlo. Je vous remercie infiniment. C'était pour moi une belle lecture et une belle rencontre. Vous parliez d'amitié. Ben, je suis ravie de vous avoir rencontré, Yann Kerlo. J'espère que ça n'est le début de belles rencontres et de belles discussions sur vos prochains ouvrages. En tout cas, sachez que ce micro vous est définitivement acquis. Voilà.
Merci infiniment, cher ami. Et ça me fait très plaisir que vous disiez ça parce que c'est un bonheur pour moi de vous avoir répondu avec tout ce qui m'a semblé essentiel dans la vie de Léon Battista Alberti. Mmh. Merci infiniment.
Merci à vous, Yann Kerlo. Voilà, Léon Battista Alberti aux éditions Albin Michel. Eh bien voilà, je vous recommande cette lecture pleine d'humanité, pleine de sagesse aussi. Yann Kerlo se joint à Léon Battista et grâce à lui, il nous fait vivre et rencontrer un personnage hors du commun. Je vous souhaite une belle lecture. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.